Bon, je vais essayer de faire assez rapidement ce que j'ai à vous présenter pour que vous puissiez prendre plus de temps pour discuter, pour essayer d'avoir plus de temps pour jouer au football et jouer au volleyball. Donc si j'arrive à me tenir près de mes notes, ce sera plus court. Le jour que Harlem a téléphoné pour me demander de présenter quelque chose, il m'a donné trois choix d'études. J'ai choisi le sujet « Encourager le conducteur ». J'ai fait ce choix pour deux raisons. Premièrement, je n'ai jamais présenté une étude sur ce sujet auparavant. Et deuxièmement, je n'avais jamais entendu une étude sur ce sujet non plus auparavant. Maintenant, je sais pourquoi je n'ai jamais entendu une étude sur ce sujet auparavant. C'est un sujet difficile. Et pourquoi ? Eh bien, premièrement, parce qu'on peut inclure dans la catégorie de nos conducteurs ceux qui enseignent. Donc, cet après-midi, je vais vous enseigner comment vous devez m'encourager, moi. Donc, c'est pas très logique. Deuxièmement, la Bible parle beaucoup de comment nous devons nous encourager les uns les autres, comment les dirigeants doivent encourager le troupeau. Mais la Bible parle quand même très peu de comment les brebis peuvent encourager les bergers. C'est un sujet qui va un peu à contresens de la vie. On ne demande pas souvent aux employés comment est-ce qu'ils arrivent à encourager et à motiver leur chef à bien travailler. C'est plutôt la responsabilité de leur chef de les motiver eux à bien travailler. Autrement dit, la direction ou le sens de la motivation dans une compagnie, par exemple, une société, va toujours dans le même sens. Va toujours dans le sens de la hiérarchie des responsabilités. Donc cet après-midi, nous allons voir comment nous pouvons développer cette relation à double sens. Je trouve que c'est très important de faire cette relation à double sens, parce que souvent, ceux qui présentent des études, ceux qui dirigent des choses dans l'assemblée, on se dit « Ah, c'est des gens parfaits, c'est des gens qui n'ont jamais de problème », mais ce n'est pas du tout vrai. Ils sont comme nous, ils ont besoin d'être encouragés comme nous. Donc pour faire cette étude, j'aimerais procéder de la manière suivante. J'aimerais d'abord voir quelques passages bibliques qui traitent directement du sujet. Ensuite, j'aimerais élargir un peu le sujet à d'autres sortes de relations qui sont assez proches pour voir ce qu'on peut en tirer. Ensuite, je rajouterai quelques observations personnelles. Et finalement, je vous laisserai discuter la chose entre vous. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur la façon dont nous pouvons encourager nos conducteurs? Ces conducteurs, ça peut être les anciens, ça peut être les diacres, les évangélistes, les enseignants, ou tout simplement ceux qui prennent des responsabilités au sein de l'Église. Ceux à qui, souvent, on apporte les problèmes dans l'Église. La majorité des passages que j'ai trouvés se figurent parmi les salutations finales dans les lettres de Paul. Souvent, en terminant les lettres aux Églises, il encourage les frères à encourager leurs dirigeants d'une manière ou d'une autre. Donc, j'aimerais lire plusieurs de ces passages et essayer d'extraire un ou deux mots qui résument l'encouragement que nous devons fournir. Si vous voulez suivre avec moi ces passages, il y en a à peu près 8 ou 9. Le premier, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 12 et 13. 1 Thessaloniciens 5, 12 et 13. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. Donc, nous avons de la considération. Nous avons une haute estime pour nos dirigeants et ceux qui travaillent parmi nous. Je résumerai ce verset par le mot respect. Mais en qualifiant cela par respect avec amour, comme il dit au verset 13. Il faut aussi remarquer dans ce passage qu'il faut respecter pas seulement ceux qui nous dirigent, mais aussi ceux qui nous avertissent. Quand un frère vient vers nous et nous dit « Attention, Tu ne devrais pas faire cela. Il faut d'abord l'écouter, mais ensuite, il ne faut pas lui en vouloir, de nous avoir pris en faute. Mais au contraire, il faut lui donner un respect plein d'amour. Ce n'est pas toujours facile. Lisons maintenant 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, tu n'amuseras pas le bœuf qui fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Donc nous avons ici le terme double honneur. Ça peut être des paroles, ça peut être des dons matériels. Mais Paul qualifie bien ceux qui sont dignes de ce double honneur. D'abord, c'est les anciens. Ensuite, il rajoute que c'est les anciens qui président. Ensuite, il ajoute que c'est les anciens qui prêchent ou qui enseignent. En tout cas, en Europe, c'est pas très souvent qu'on trouve un ancien qui préside la réunion des hommes, qui enseigne et qui prêche en même temps. En tout cas, s'il fait tout cela, il y met beaucoup de son temps et de son énergie. Et à cause de cela, il faut lui donner un respect, même un double respect, un double honneur. Regardons maintenant Philippiens 2, Philippiens chapitre 2. Et je vais lire les versets 25, 29 et 30. Philippiens chapitre 2. J'estimais nécessaire de vous envoyer Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, que vous m'avez envoyé et à qui vous avez donné de quoi pourvoir à mes besoins. Ensuite, le verset 29. Et par qui est d'Épaphrodite, recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. Épaphrodite, c'était un exemple à suivre. Il s'est battu et a même beaucoup souffert pour Christ, pour évangéliser. Paul nous dit de le recevoir avec joie et de l'honorer. Il faut honorer les gens qui se battent, qui dépensent beaucoup d'énergie pour entendre la bonne nouvelle. Hébreux 13, verset 7. Hébreux 13, 7. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Nous avons dans ce passage le terme se souvenir et le terme imiter. Se souvenir, donc se rappeler de la manière dont nos conducteurs ont réagi dans une même situation que nous sommes actuellement et voir ce qu'ils ont obtenu comme résultat, eux, quand ils ont réagi de cette manière. Si nous imitons les actions de ceux qui mettent en pratique ce qu'ils enseignent, alors ceux-ci seront encouragés à continuer à nous enseigner cela. Hébreux 13, verset 17. Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis, car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte. Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant, ce qui ne sera pas à votre avantage. Nos conducteurs, ceux qui nous annoncent la parole, ils ont beaucoup de responsabilités envers nous. Il dit ici qu'ils devront nous en rendre compte. Non, pas à nous. Ils devront rendre compte à Dieu pour ce qu'ils enseignent. Donc, si nous obéissons avec joie à ceux qui nous enseignent, ils sont eux aussi encouragés. Autrement dit, si nous obéissons avec joie, nos conducteurs, eux aussi, vont nous enseigner avec joie. 1 Corinthiens, chapitre 16, les versets 15 à 18. 1 Corinthiens 16, 15 et 18. « Je vous fais encore une recommandation, frère. Vous savez que la famille de Stéphanas est les prémices de la caille et que c'est mise au service des saints. Soumettez-vous aussi à de tels hommes, ainsi qu'à tous ceux qui prennent part à l'œuvre et qui travaillent. Je me réjouis de la présence de Stéphanas, de Fortunatus et d'Acaïcus. Ils ont suppléé à votre absence, car ils ont tranquillisé mon esprit et le vôtre. Sachez donc apprécier de tels hommes. Donc il faut se soumettre à ceux qui se donnent au travail, à l'évangélisation, à ceux qui dépensent beaucoup d'énergie pour nous encourager, nous. Ils verront une récompense à leurs efforts s'ils voient que nous nous soumettons à leurs recommandations et à leurs encouragements. Les trois personnes que vous avez ici, Stéphanas, Fortunatus et Acaïcus, ce sont des frères qui se sont donnés à encourager leurs frères et leurs sœurs, à les soulager moralement et spirituellement, à les tranquilliser en face des problèmes qu'ils avaient. On a souvent besoin de frères qui savent comment calmer les esprits dans l'Église, surtout lorsqu'il y a des désaccords dans l'Église. Il faut savoir comment apprécier, comment reconnaître des frères comme cela. J'utilise le mot reconnaître parce que en anglais, dans la Bible en anglais, il utilise le mot reconnaître. Je préfère un peu ce mot. Reconnaître quelqu'un, c'est, disons, dire des choses, des compliments sur les choses qu'il a fait de bien en public, devant les autres, le reconnaître avec d'autres personnes. Donc, avec ce passage, c'est le seul passage que j'ai trouvé d'ailleurs sur le sujet, nous voyons un peu comment nous pouvons encourager nos conducteurs. Pour résumer ce que nous avons à faire, les actions que nous avons à entreprendre, on peut utiliser les mots suivants. Respecter, estimer, honorer, recevoir, se souvenir, imiter, obéir avec joie, se soumettre et apprécier. Donc si on utilise tous ces termes, on pourra encourager nos conducteurs. Puisque la Bible ne dit vraiment pas grand-chose sur l'encouragement de nos conducteurs, je me vois des passages qui sont basés sur des relations qui sont un peu similaires. Par exemple, on peut rapprocher la relation parent-enfant avec conducteur, frère et sœur. Donc on se pose la question, comment est-ce que les enfants peuvent-ils encourager leurs parents? Car dans un sens, nos conducteurs sont dans un sens nos parents spirituels. Voyons Éphésiens 6, versets 1 et 2. Éphésiens 6, 1 et 2. Enfin, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il faut obéir car c'est juste. Et nous retrouvons aussi ici le terme honorer. Si les enfants obéissent avec joie, le résultat pour eux sera le bonheur. C'est promis dans ce passage. Et cela fera aussi le bonheur des parents. Une autre relation qui est similaire est la relation esclave-maître. Je ne dis pas que nous sommes les esclaves de nos conducteurs, mais je dis qu'il y a des enseignements sur les attitudes de l'esclave chrétien face à son maître. Regardons Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Éphésiens chapitre 6, versets 5 à 8. Serviteurs, obéissez à vos maîtres selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Et cela non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. Servez-les de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur, et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Je ne pense pas que obéir avec crainte et tremblement s'applique vraiment à l'encouragement de nos conducteurs. Je ne pense pas que vous êtes dans la crainte devant moi aujourd'hui. Mais la phrase « comme au Christ », c'est quelque chose qui est très applicable pour nous. Il faut obéir à ceux qui nous dirigent avec la même attitude comme si nous obéissons à Christ. Nous sommes toujours sous les yeux de Christ, et de même, il faut obéir à nos conducteurs comme si nous étions toujours sous leurs yeux. À Genève, nous avons une fois par mois ce que nous appelons l'agape. Nous mangeons ensemble à la salle. Et est-ce que nous avons, nous conduisons d'une manière différente lorsque nous mangeons avec nos frères et sœurs, avec nos conducteurs pendant l'agape? Est-ce que nous conduisons de la même manière lorsque nous sortons, disons avec nos collègues de boulot, avec une sortie de la boîte ou quelque chose comme cela? Normalement, on devrait avoir la même conduite, puisque de toute façon, nous le faisons comme au Christ. Est-ce que nous obéissons à nos conducteurs de bon gré ou avec joie, comme disait l'autre passage qu'on a lu avant? Ou est-ce qu'on le fait simplement une fois qu'on a épuisé toutes les excuses qu'on pourrait se faire? Lisons 1 Timothée, chapitre 6, versets 1 à 2. 1 Timothée 6, 1 à 2. Encore un passage sur l'esclavage. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des croyants pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Pourquoi devrait-on honorer nos conducteurs? Pour que Dieu et la parole ne soient pas calomniés. Par exemple, si un évangéliste enseigne le danger de l'alcool ou du tabac pendant une série de conférences, et qu'après, on se retrouve tous ensemble au bar en train de picoler, les gens qui vont venir en conférence et vont les voir, vont dire, la vie chrétienne, ça vaut rien. Donc, à cause de cela, la parole sera calomniée. Lisons maintenant Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. Exhorte les esclaves à être soumis en tout à leur maître, à leur plaire, à ne pas être contredisants, à ne rien détourner, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Nos conducteurs et ceux qui nous enseignent ne sont pas encouragés quand nous essayons toujours de contredire ce qu'ils nous enseignent, de trouver un peu la faille de leurs propos. C'est souvent un problème personnel qui amène des contredisances. Il y a d'autres relations qu'on peut voir qui peuvent nous enseigner comment encourager nos conducteurs. Par exemple, la relation employé-employeur et la relation élève-professeur. Ceux qui sont encore dans les études savent comment ils pourraient plaire à leur professeur. Seulement, souvent, ça demande un certain effort, un certain sacrifice. De même aussi, nous devons nous dépenser, nous aussi, pour que nos dirigeants soient encouragés. Maintenant que nous avons plus ou moins exploité les sujets dans la Bible, j'aimerais passer au domaine un peu de l'opinion personnelle. C'est-à-dire, je vais vous exposer mes conclusions de mes propres observations. Donc, qu'est-ce qui m'encouragerait, moi, cet après-midi, en vous donnant cette étude? Premièrement, la présence de tous. Si je vois que la moitié des personnes de la retraite sont parties se promener ou sont parties aller jouer au football au lieu de m'écouter, je ne serais pas très encouragé. Mais si je vois que tout le monde est ici, que tout le monde est ici même à l'heure, je suis très encouragé. Et à cause de cela, je vais essayer de faire une étude qui est bien, une étude où je communique bien ce que j'ai préparé. Ensuite, si dans mes études je vous pose des questions, je ne vous pose pas maintenant, mais si je l'avais fait et que je vois que personne ne répond, que la moitié des gens sont endormis, je ne serais pas très encouragé. Donc il y a la participation et l'écoute qui sont très importants pour celui qui enseigne. De même, si je présente une étude suivie en donnant des devoirs, une semaine à la fois, et que je vois que personne n'a fait les devoirs, je ne suis pas très encouragé non plus. Mais je pense que le plus grand encouragement ou motivation pour ceux qui enseignent se trouve dans le fait qu'ils puissent voir un changement dans la vie de celui qui écoute la parole. C'est-à-dire, la préparation d'une étude demande un certain travail, une certaine énergie. On ne prépare pas une étude simplement comme un exercice intellectuel. On prépare une étude pour aider ceux qui écoutent, pour améliorer la vie de ceux qui écoutent, améliorer leur foi. Si on enseigne quelque chose et qu'on ne voit jamais les résultats, ce ne sera pas très encourageant, pas très motivant. Par exemple, si j'enseigne l'importance d'être à l'heure, et que je vois par la suite que les retardataires sont toujours les mêmes retardataires, je ne serai pas très encouragé. Et je remettrai en question l'efficacité de mon étude. Mais si au contraire je vois que tout le monde maintenant arrive à l'heure, je suis très encouragé. Et je suis prêt à me donner encore plus à mes études. Mais comme on a vu dans les passages bibliques auparavant, ce changement de vie doit être fait dans la joie. Si je viens à l'heure, mais je me dis, je suis à l'heure, mais je n'ai pas pu finir mon repassage. J'ai dû manger à toute vitesse. Je n'ai pas eu le temps de changer les couches du bébé. C'est pas la joie. Donc, en conclusion, que pouvons-nous faire pour encourager nos conducteurs, ceux qui nous dirigent et ceux qui nous enseignent? Il faut les respecter, les estimer, les honorer, les recevoir, les imiter, les obéir avec joie, se soumettre, les apprécier, ne pas les contredire, être présent à l'écoute, faire les devoirs, et faire toutes ces choses comme au Christ, en changeant notre vie avec de la joie. Voilà ce que j'allais vous présenter. Maintenant, vous pouvez passer aux discussions. J'ai quelque chose pour tous les chefs de discussion, s'ils veulent. Quelques questions.